Alors, merci pour tous ceux qui ont, je sais qu'il y en a qui ont prié pour le voyage de Granby à Longueuil. Un matin, c'était 70 km. Se tenir sur la voie. Et c'est bien. Je suis content d'être ici avec vous et de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant la prière. Un sujet tellement vital. Tellement vital. Vous savez, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, je vais vous énumérer des besoins qu'il y a autour de nous. Un ou plusieurs de nos ados qui se sont éloignés de Dieu. Un grand nombre de nos enfants adultes qui sont dans le monde. Un ou plusieurs chrétiens qui sont retournés dans le monde, peut-être que tu connais. Des couples en crise. Je ne sais pas s'il y en a ici à Longueuil. Taux de conversion minime dans notre association depuis 10 ans. Si on enlève, j'ai calculé ça les dernières années, si on enlève les conversions de ceux qui sont nos enfants, et gloire à Dieu, qu'ils se convertissent. Il y en a qui se convertissent, il y en a qui sont baptisés. Mais si on enlève ceux-là, et qu'on regarde la croissance de nos églises, de l'extérieur, d'aller chercher les âmes perdues, d'après vous, c'est quoi la moyenne par église, par année de conversion dans nos 80 églises? C'est à peu près, si je me souviens bien, là, 2 personnes par année par église. On ne parle pas des professions de foi ici, on parle de ceux qui ont fait profession de foi et qui ont été baptisés. 2 personnes par année par église, environ, autour de ça. Puis on est considéré comme une association dynamique. C'est vrai. Dans le milieu évangélique, lorsqu'on regarde l'association, il y a différentes perceptions, mais en général, ils reconnaissent qu'on va de l'avant. Donc, en plus, un taux de conversion minime dans plusieurs dénominations, sinon toutes. Le chiffre que je hais le plus, 0,5% d'évangéliques depuis 20 ans, donc une stagnation dans la croissance des convertis. L'île de Montréal, où notre association a très peu implanté d'église. Donc, un grand besoin là. Je ne veux pas vous déprimer ce matin là. Je veux juste vous mettre devant les faits. Ça, c'est la réalité qu'on vit. Quand on regarde la corruption morale, qui gagne presque tous les segments de la société, comme une gangrène, domaine des affaires, on entend constamment des gens qui se font flouer. La construction, si vous lisez les journaux, vous le savez. Les différents paliers municipaux, il y a des problèmes à Laval, à Terrebonne. Palier provincial, les lois gouvernementales au Québec qui ont toutes désavantagé la position biblique au niveau légal, dans le sens qu'on peut se retrouver à avoir des problèmes. La possibilité de plus en plus claire que notre position au Québec au sujet de l'homosexualité soit associée à un crime haineux contre les homosexuels. Tout ça est là, ça travaille en dessous. Que faire? Que faire devant des impossibilités? Des situations où on se sent démuni. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que ça vient de régler la question. On est sûr ce matin que la solution ne se situe pas moi et vous. La solution est verticale. La solution est divine. C'est Dieu qui doit intervenir dans ces diverses situations pour renverser les choses. Seul Dieu est capable de faire ça, c'est certain. J'ai intitulé mon message « Mort demandée pour tous les hommes ». Ça peut vous la dire, ça peut être bizarre comme titre. Hein? Mâle. Mâle demandée pour tous les hommes. Et je crois qu'une des solutions, c'est pas la seule, mais une des solutions se trouve certainement dans 1 Timothée 2, verset 8. On va lire tout le contexte. J'ai pas le temps ce matin parce que c'est un de mes passages favoris. J'ai pas le temps ce matin de décortiquer les 7 premiers versets. On va juste passer en survol. Mais un passage extrêmement important. Paul s'adresse à Timothée, un implanteur d'église, un surveillant qui a des églises implantées et qui en implante. Il dit, j'exhorte donc. Voici ma première exhortation, Timothée. J'exhorte donc, 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, en tout premier lieu, la première chose que je veux qu'il se fasse, Timothée, c'est à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même pour nous, en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Donc, excusez la répétition, elle n'est pas dans l'original. Donc, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Comment est-ce qu'un homme, un mâle, excusez mesdames, mais ce matin, en général, la prière, en général, je dis bien en général, dans mon expérience, c'est pas nécessairement le grand problème des sœurs. Je prends l'exemple à Granby. On a beaucoup plus de difficultés, nous, les hommes, à être des intercesseurs que les sœurs. Et c'est ce que j'ai constaté à travers les années du ministère. C'est souvent nous, les hommes, on a de la misère à ce niveau-là. Maintenant, comment est-ce qu'un homme va démontrer sa dépendance envers le Seigneur, qui est dépendant? Bien certainement, M. Anderson, un homme de prière, dit, c'est dans la prière, c'est dans ma vie de prière que je manifeste si je suis dépendant ou non. C'est la manifestation claire et nette. Dans le psaume 147:10, ne tournez pas, il est dit, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas la robustesse de l'homme qu'il agrée. L'Éternel agrée ceux qui le craignent, qui s'attendent à sa bienveillance. Qui ont la vision d'un Dieu bienveillant, rempli de bonté, prêt à répondre, et ils s'attendent que Dieu va répondre avec bienveillance à leur requête. Voilà ce en quoi Dieu se plaît. Le genre d'homme qui lui plaît. Évidemment, on connaît la vie de Jésus, hein? Qui, étant l'homme parfait, le seul homme parfait qui a foulé la terre, et qui, tôt le matin, se levait pour prendre un temps avec son Père céleste, qui se retirait sur les montagnes pour prendre un temps avec son Père céleste. Un vrai homme de prière. Et Jésus nous dit en tant qu'homme, marche derrière moi. Apprends de moi. On doit demander en tant qu'homme, Seigneur, comme les disciples, enseigne-nous, enseigne-moi à prier. Dans Ézéchiel, il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche parmi mon peuple un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu regarde. Il dit, je cherche en Israël quelqu'un qui va se mettre à la brèche devant moi. Une brèche dans le mur. Et il se tient devant la brèche en intercédant pour que Dieu ne pénètre pas avec sa colère sur le peuple. Et je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et vous connaissez la réponse. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. C'est fort sur les millions qui existaient à l'époque ou les centaines de milliers. Dieu n'a pas trouvé un seul homme parmi une génération qui était prêt à se tenir à la brèche pour faire une différence afin que la grâce de Dieu tombe sur le peuple plutôt que sa colère. Et là, Dieu dit tout de suite après, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Donc, Dieu se cherche encore des hommes. C'est ce qu'il dit au verset 8. Retournez au verset 8. On va le regarder rapidement. Il dit, je veux donc que les hommes prie en tout lieu. Dieu se cherche des hommes. Et ici, c'est clair, c'est un contraste envers le mâle et la femelle. Excusez la nomenclature. Mais il dit au verset 8, « Je veux donc que les hommes, ça pourrait être le sens de « homme » en général, comment on dit ça, « homme »,« être humain », oui, mais il dit « de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ». Donc, le verset 8 contraste avec le verset 9. Ça donne donc un sens de mâle au verset 8. Je veux donc que les hommes, en contraste avec les femmes qu'il a énumérées au verset 9, au verset 9. Donc, il parle de nous, les mâles ici. Il parle des prières publiques au verset 9. Au verset 11, il parle de l'instruction publique. Il parle des hommes pendant les réunions. Pendant les réunions publiques, voici ce que j'aimerais voir que les hommes fassent. Il n'est pas en train de dire que les hommes, les femmes ne peuvent pas le faire. Il est en train d'accentuer ici un rôle que les hommes doivent jouer dans un leadership spirituel dans l'Église. Et je suis certain qu'il n'y a pas une sœur qui va se peiner de voir son mari devenir un homme de Dieu, un homme de prière qui a à cœur les gens et qui intercède. L'exhortation s'adresse à nous, les frères, ici particulièrement. Paul dit, « Je veux qu'il prie. » C'est une recommandation donnée à un implanteur. Au verset 1, il dit, « J'exhorte donc en tout premier lieu. » Timothée, la première exhortation que je t'adresse, c'est que les prières montent. Toutes sortes de prières, de supplications, d'actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le contexte du salut des âmes ici, dans tout le contexte. Verset 1 à 8, c'est très clair. Il revient avec le thème. Je veux qu'on prie pour tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est médiateur entre Dieu et les hommes. Le contexte, c'est le cœur de Dieu, le grand cœur de Dieu, pour le salut des âmes. C'est le contexte de la prière. Je veux qu'il prie. Je te demande, Timothée, que ceci soit une priorité quelque part, dans la vie des frères, dans le culte public. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas trop. Mais je sais que Paul le demande à Timothée. Et c'est important, Timothée. Le donc ici est important. Verset 8, je veux donc que les hommes... Ça fait référence au verset 1 à 7, où il vient d'expliquer le grand fardeau de Dieu pour les hommes. C'est intéressant. Les Américains ont tenté une expérience. Ils ont mis un groupe de prière et ils ont choisi, au hasard, 100 personnes pour lesquelles ils ont prié dans le bottin. Et ils ont pris 100 autres personnes, ils ont noté, pour lesquelles ils n'ont pas prié. Et pendant un certain temps, ils ont prié pour les 100, et ils n'ont pas prié pour ces 100-là. Au hasard, dans le bottin téléphonique. Quelques temps plus tard, ils ont pris 200 personnes, non, excusez, ils ont téléphoné à ces 200 personnes pour leur proposer une Bible et leur parler de Jésus-Christ. Pour les 100 pour lesquels on n'avait pas prié, seuls quelques-uns ont accepté la Bible. Pour les 100 pour lesquels ils avaient sérieusement prié, tous ont accepté la Bible. Au hasard, dans le bottin téléphonique, par l'intercession, tu me dis c'est aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais te faire remarquer que les 100 autres sont aux États-Unis aussi. Fait que ça marche pas ton argument. Dieu est intervenu grâce à la prière pour tous les hommes, des hommes qui ne connaissaient pas, dans le bottin téléphonique. Peut-il être plus plate que ça? Hein? Juste une prière régulière pour 100 hommes dans le bottin téléphonique, il y a eu une ouverture face à la parole de Dieu qui n'était pas là dans l'autre groupe. Frères et sœurs, quand Dieu nous dit de prier pour tous les hommes, c'est qu'il y a une intention de faire quelque chose avec ça. Dieu ne nous dirait pas, je veux que vous priez pour tous les hommes, si Dieu n'a pas une intention bienveillante envers l'être humain, envers la race humaine. Il a à cœur la race humaine. Il est descendu du ciel, il a tout abandonné complètement pour la race humaine, pour venir comme le second Adam. Celui qui va prendre la place. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, il a aimé le monde. Et il veut qu'on prie pour ça. Il veut qu'on... Où est-ce qu'on prie? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Wow! L'expression se retrouve 4 fois dans le Nouveau Testament en tout lieu. Et elle désigne tous les endroits habités. Ici, ça désigne partout où des hommes chrétiens vivent et se réunissent. Partout où les assemblées publiques étaient. En parlant ici dans les groupes de maisons, c'était à l'époque du Nouveau Testament, c'était ça. Et certainement dans les grandes assemblées aussi, comme dans Corinthiens. On voit dans Corinthiens 14 qu'il y avait des assemblées de toute l'Église ensemble. Donc, dans les rencontres, en tout lieu, Dieu dit « prière pour tous les hommes ». Ensuite, il dit comment? En élevant des mains pures. C'était la façon de prier. Hein? Tu présentais pour un juif, et même pour certains non-juifs, tu présentais ta requête avec tes mains. Hein? « Seigneur, réponds, fais descendre la réponse. » On montait devant Dieu avec les mains élevées. « Seigneur, réponds à ma demande. » Et Dieu dit, « Va te laver les mains. » Hein, c'est ça, avec des mains pures. Il dit, « Tu me présentes ta requête, mais il y a de la colère. » Tu te souviens pas? C'est intéressant, dernièrement. Je savais qu'il fallait que j'appelle quelqu'un. Je priais pour les âmes. Et pendant ma prière pour les âmes, Saint-Esprit dit, « Appelle une situation qui fait longtemps que tu dois régler, de façon très délicate. Très, 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 très délicat. Une erreur que j'ai faite. Saint-Esprit me dit, t'appelles. Et j'appelle. Puis je me suis fait engueuler pas à peu près. Je pense que je me suis jamais fait engueuler comme ça. Vraiment comme du poisson pourri. Mais j'acceptais. C'était pas un chrétien. Puis, il a fait une erreur. Je raccroche la ligne avec la paix de Dieu, vraiment la paix dans le cœur. 2 minutes après, téléphone sonne. Un contact inconverti qui m'appelle. Il dit, on peut-tu prendre rendez-vous? On peut-tu prendre rendez-vous? Et il est en train de faire profession de foi, je le rencontre ce soir. Et ça fait 3 fois qu'on se rencontre. Et d'après moi, il est probablement converti, ou en tout cas, il est proche. Très, très, très proche. Sans colère! T'as-tu quelque chose de pas réglé? Ça, il dit, présente-moi pas des mains sales, franchement. T'as pas honte? Et ça me parle, hein? J'espère que ça te parle aussi. Ni contestation. Ici, le terme en grec peut vouloir dire contestation intérieure, doute. Hein? Je conteste avec moi-même, je suis en trouble, je prie, mais je suis pas sûr, puis Dieu va-tu m'entendre, il m'entends-tu pas? Puis, soit le doute, ou la contestation comme la colère. Hein? Moi, je suis né avec les autres. Le terme en grec peut avoir les deux sens. Pas sûr lequel a le sens. Peut-être ça va avec ta conscience, je sais pas. Hein? Mais Dieu dit, t'as besoin de t'approcher de moi sérieusement, dans la prière, pour tous les hommes, avec foi, avec confiance que je suis un Dieu de bienveillance. Ça, c'est ce que Dieu dit. Est-ce qu'on est d'accord, messieurs? Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu s'attend, mes frères, Dieu s'attend de nous, qu'on manifeste une compassion pour les âmes, et peut-être qu'elle n'est pas là dans ton cœur ce matin. Peut-être que ce n'est pas là. Là n'est pas la question. Voici ce que Dieu voudrait qu'arrive dans mon cœur et dans ton cœur. Que ça devienne une réalité. Mais c'est merveilleux, Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, quels sont les 4 obstacles pour lesquels les Québécois, les hommes québécois, ne prient pas? Regardons ça rapidement. Premièrement, en méditant là-dessus, est-ce que je marche dans les péchés de mes pères? Qui était spirituel au Québec dans notre arrière-plan? Ah, je m'attendais à une réponse directe. Tout de suite. Les vieux, là. Qui était spirituel? L'homme ou la femme? La femme. La femme était, dans notre arrière-plan, très souvent spirituelle. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ne l'étaient pas. Mais dans notre arrière-plan, la femme a joué une grande place dans la spiritualité. Et là, on entre dans la vie chrétienne et on ne réalise pas qu'il y a tout un arrière-plan à l'arrière de nous, là. Et qu'il est très facile d'arriver à l'église puis de laisser ça aux sœurs. Ils sont tellement zélés. sont plus émotionnels, ils ont un cœur, ils sont sensibles. Laissons-les. Hein? Les sœurs, ils ont un cœur, laissons-les faire. Est-ce que, je te pose la question, je ne sais pas quel est ton arrière-plan, père, grand-père, arrière-grand-père, mais peut-être que dans la passivité spirituelle au niveau de la prière, tu marches tout simplement comme tes ancêtres ont marché. Ma Bible dit le contraire. La prière semble un travail très viril. Moïse qui prie et jeûne 40 jours et 40 nuits. Jacob qui lutte avec l'ange de l'Éternel. Il dit, « Pars pas d'ici sans que tu me bénisses. » C'est la bataille. Ça, c'est la prière. Je pense qu'on pourrait dire, « Petite nature s'abstenir. » L'image de la veuve qui va devant le juge puis qui menace de lui faire un œil au beurre noir si ça continue. Ça, c'est la prière. Élie qui prie 7 fois jusqu'à... Vas-y, retourne. Retourne. 7 fois. Jésus qui prie plusieurs fois toute une nuit. Jésus qui se lève aux petites heures du matin. Esther qui demande qu'on jeûne 3 jours et 3 nuits. Frères et sœurs, ça a l'air un travail très intense qui exige. Donc, est-ce que je marche dans le péché de mes pères? Est-ce que je suis devenu passif simplement parce que c'est ce que j'ai appris? Dieu dit, renonce à ça. Renonce à cet arrière-plan de passivité. Reconnais que c'est le péché de tes pères. Tu n'as pas à continuer. Demande au Seigneur de t'affranchir de cette tendance que tu as de laisser d'être passif. Peut-être le deuxième problème, c'est un problème plus récent. Le moi. Un des grands obstacles à un réveil permanent en Amérique, c'est clairement le moi. C'est évident. Jésus avait déclaré sur la ville de Pergame, là où Satan a son trône. Il dirait, si Jésus, je pense, parlait aujourd'hui, il dirait de l'Amérique, là où le moi a son trône. Là où le moi a son trône. Tout est centré sur moi. Tu le mérites bien, fais-toi plaisir. N'est-ce pas qu'on entend ça? Hein? Tu le mérites. Fais-toi plaisir. La génération du moi. Saviez-vous que le moi et la prière ne font pas bon ménage? Il y a beaucoup de divorces dans ce mariage-là. Le moi et la prière. Beaucoup de divorces. Ils ne s'entendent pas. Hein? Ils ne réussissent jamais à discuter ensemble. Il y a des disputes sans fin entre eux. Entre le moi et la prière. Le moi, lui, dit... Oh, j'aimerais ça une bonne chaise confortable, c'est sûr, hein? C'est ça qu'il va dire. La prière, elle, il dit, qu'est-ce que tu dirais? De pleurer sur les âmes, d'être à genoux. Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement prier à genoux, mais quand tu as une tristesse dans le cœur, puis que c'est lourd, puis que c'est profond, c'est naturel. Tu vas te mettre à genoux. Ton corps va obéir à ce que ressent ton âme dans la prière. L'un est attiré vers le bas, l'ego. L'autre est attiré vers le haut. L'un vers le lit, l'autre vers la croix. Si le grain de blé ne meurt, l'un veut la télé, évidemment. L'autre veut la vision de foi des âmes perdues. L'un veut manger, l'autre veut jeûner. Le prix à payer, mes frères, pour une vie de prière, c'est la mort. C'est clair. Il n'y a pas personne qui va être capable de développer une vie de prière consistante s'il n'est pas prêt à mourir à soi-même quelque part, pratiquement. Très pratique. Le Seigneur Jésus a vaincu Satan, non quand il fait des miracles et qu'il a ressuscité les morts, mais quand il est là à la croix. Lorsque nous choisissons la croix chaque jour dans nos vies, nous expérimentons aussi la victoire sur le péché, le monde, la chair et Satan. Frères et sœurs, ça peut tellement être légaliste, ce que je dis là. À moins que ça vienne du cœur. À moins que le cœur soit touché. Je ne serai pas prêt à mourir. À moins que la vision de la croix soit réelle dans ma vie. Ce que Jésus-Christ était prêt à abandonner pour moi, pour toi. 33 ans ici-bas de vivre pour moi, pour toi, pour nous sauver. Et Jésus dit, viens à ma suite. Si le grain de blé meurt, il reste seul. Il n'y aura pas de conversion. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le fruit, mes frères et sœurs, ici c'est les âmes. Parce que Jésus allait mourir à la croix. Il allait sauver les âmes. Si on est prêt à suivre derrière lui, le Seigneur va nous donner des âmes. C'est réel. Mais le problème, c'est le cœur. On a un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur qui aime le Seigneur, qui aime ses commandements, Dieu les a mis en toi. Dieu a mis en toi le désir de prier. La seule lutte que tu as, c'est contre ta chair. Ton nouveau cœur, là, lui, veut prier. Si tu ne l'entends plus, là, c'est que la chair a pris la place d'une manière incroyable dans ta vie. Mais c'est clair, la Bible est claire. Dieu a mis le goût de la prière dans ton cœur. C'est là, en toi. Par nature, tu as cœur à prier pour les âmes. C'est certain. C'est ce que Dieu dit. Si ce n'est plus là, ça indique à quel point la chair a pris la place. Souviens-toi de ton premier amour, des premières prières que tu as priées pour le Seigneur. Souviens-toi de ceux qui ont intercédé pour toi. Moi, je me souviens, mon frère Michel, après ma conversion, il dit, j'ai intercédé pendant des années pour toi, Richard. Je savais pas ça, moi. Mais mon frère était en prière. Et un après-midi, seul dans ma chambre, le Saint-Esprit est venu. Il m'a convaincu. Grâce aux prières de mon frère. Est-ce que je suis prêt à écouter ce nouveau cœur que j'ai en Jésus-Christ, qui lui est prêt à prier? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La troisième raison, l'orgueil. Attends un peu. Je veux appliquer par rapport à la chair. À quoi peux-tu renoncer d'ici cet été pour vaquer avec un frère à la prière? Un entraînement sur tes quatre? Les sportifs, là. Tu t'entraînes, tu es en forme, c'est merveilleux. Peux-tu enlever un entraînement puis prendre un temps avec un frère et d'intercéder pour tes contacts, pour ta famille, pour tes enfants? Pour ceux qui t'entourent, est-ce que tu serais prêt à renoncer à un repas par semaine? Puis ta fille qui est éloignée? Renonce à toi-même. Seigneur, sauve. Ma femme est en prière pour ma fille. Ça fait des mois qu'elle jeûne une fois par semaine. Un repas. Un midi. Afin que Dieu intervienne envers nos enfants. Ça a l'air qu'on écoute en moyenne la TV combien d'heures? 20? Je pense que c'est 24. 24 heures par semaine. On travaille à mi-temps. Qu'est-ce que tu dirais, pratiquement, là? Une de tes bonnes émissions, là, parmi les 6 favorites. Qu'est-ce que tu dirais d'en prendre une? Puis tu disais à celle-là, Seigneur, là, je la mets à part et j'intercède. Toutes les fois qu'il y a cette émission-là. Renoncer. Il y a un prix à payer si on veut voir les âmes, frères et sœurs. C'est certain. Mais là, l'autre obstacle qu'on met ça en pratique, c'est évidemment l'orgueil. L'orgueil d'indépendance. Que j'ai pas besoin de Dieu. Que je le manifeste par mon manque de prière. Oh, l'orgueil, c'est un des pires. C'est le pire péché qui entraîne tous les autres. Cette indépendance envers Dieu qui est vraiment inacceptable. Jésus dit, vous connaîtrez que je suis, que je ne fais rien de moi-même. Jésus lui-même, homme Dieu, déclare, je ne fais rien de moi-même. L'homme parfait, le Fils de Dieu parfait, déclare que sans son Père, il ne peut rien faire. Et moi, je serais capable de me débrouiller sans Dieu? Voyez-vous l'orgueil? C'est rempli d'orgueil lorsque j'ai pas de vie de prière. C'est évident. C'est peut-être l'orgueil gêne. Qu'est-ce que les autres vont penser de ma prière? J'ose pas prier dans les rencontres publiques. Si ça parle des rencontres publiques, je commence à comparer ma prière à celle des autres. Depuis quand est-ce qu'un père regarde la performance de son fils pour lui accorder une requête? Hein, si le fils est là et il commence à prendre des paroles, « Oh, mon père, toi qui es beau et grand et puissant! » Le père va le regarder, il va dire, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? » Hein? Mais c'est plutôt, il entend, « Hey, papa, papa, papa. » Voyez-vous? J'ai dit combien de mots? Papa, papa, papa. C'est-tu compliqué, ça? Hein? Quand vous entendez la première fois, la première prière d'un nouveau chrétien, c'est-tu compliqué? Tu trouves ça-tu beau? Eh, mon ami, ça réjouit ton cœur, hein? Oh! Wow! Il a commencé à prier simplement. C'est ça que Dieu veut. Arrête de regarder comment les autres prient. Hein? Tu veux-tu faire comme Tertullien, là? Il me semble que c'est ça son nom. Tertulle. Il s'est adressé au gouverneur Félix. À chaque fois que je dis ça, je ris. La paix profonde obtenue grâce à toi et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent, Félix, nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Mon œil, hein? Mais mes frères et sœurs, des fois, nos prières, là, c'est à peu près comme ça. Au lieu d'aller avec le cœur, et là, on est en train de gêner tous ceux qui savent pas, ils ont pas un vocabulaire élaboré. Prie avec ton cœur. Laisse faire ce que les autres prient. Comment t'humilier? Qu'est-ce que tu dirais de commencer à prier audiblement dans les groupes de maison? Tu n'as jamais prié peut-être. Cette semaine. Tu mets ton orgueil de côté, ta crainte, et tu dis, je me lance. Attention, j'arrive. Et je fais une prière cette semaine. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu n'as jamais assisté à ton groupe de maison. Ce serait peut-être le temps de commencer. Hein? Ou encore, tu commences cette semaine dans ton groupe de maison à confesser ton indépendance, ton peu de prière. Tu dis, mes frères, mes sœurs, dans mon groupe de maison, vraiment là, ça fait pitié, mon enfant. J'aimerais qu'on prie vraiment, je suis sérieux, jusqu'à ce que ma vie de prière commence à s'élaborer. Priez pour moi et tu reviens. Régulièrement. Priez pour ma vie de prière. Ils vont te trouver fatigant, c'est vrai. Mais c'est efficace, tu vas voir. Ça va peut-être les travailler aussi. Hein? C'est jamais. Et peut-être tu as besoin de commencer à confesser ta rébellion. Dans le sens que tu n'es pas devenu un homme de prière. Et finalement, notre indifférence. Et souvent, l'indifférence, c'est notre indifférence de découragement incrédule. C'est là que souvent le bas blesse. Notre indifférence vient du fait qu'on s'est découragé. On a commencé à prier pour une personne. Ça a duré quelques années. Et là, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et l'ennemi vient nous souffler constamment. Ça va plus haut que le plafond, hein? On a commencé à prier pour quelqu'un. Il a commencé à s'en venir. Ça s'en venait. Je connais un pasteur, c'était ça. Sa fille s'en venait. Et là, elle était là! Tourne dans le monde. Oh. Découragement. Goût de tout lâcher. Frères et sœurs, notre père Abraham, comment ça a pris de temps avant d'avoir son premier fils? 25 ans. Dieu lui avait promis une multitude. Après 25, un enfant. Est-ce que tu penses qu'il y a un principe, là, quand Dieu est en train de nous dire? Regarde la vie d'Abraham. Tu veux savoir comment fonctionne la foi, là? C'est là. Abraham a attendu. Dieu, après, le fils, il l'a même éprouvé. Donne-moi-le. Il y a toute une bataille dans la foi. Je ferai toutes sortes d'exemples à vous donner. Une femme qui a prié pour son mari pendant 13 ans. Elle était découragée. Elle a demandé à un couple missionnaire de venir prier régulièrement avec elle. Elle était découragée. Ça viendra jamais. Et 13 ans plus tard, le mari se retourne. Puis il dit, chérie, invite donc ce couple-là, là. Je trouve qu'ils ont quelque chose. Puis toi aussi. Que je voudrais avoir. J'aurais aimé l'avoir retourné parler au téléphone avec le couple missionnaire. Et il a accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est peut-être l'indifférence matérialiste. Tes préoccupations sont avec les choses de ce monde. T'es comme dans le Titanic. T'es en train de jouer de la belle musique pendant que tout le monde s'en va à la perdition. Ça, c'est ça le sens à ta vie? Tu joues, hein? T'es bien dans le monde, mais ah, c'est donc beau. Tout le monde s'en va à perdition pendant l'éternité et il y a une indifférence dans ta vie. C'est inacceptable. Oh, que Dieu nous garde ça, frères et sœurs! Abandonner notre premier amour envers le Seigneur et envers les âmes et envers les frères et sœurs. Dieu parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Peut-être que devant ton arrière-plan matérialiste et le mien, on a besoin de jeûner avec nos bébelles une journée semaine, avec nos vidéos, nos iPads, nos iPhones, nos ordinateurs. Qu'est-ce que tu dirais? Une journée, et tu pries cette journée-là. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Amen.